Radio Cité Genève, Viviane De Witt.
La bouteille à moitié pleine.
Bonjour, vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine. Aujourd'hui, c'est un ami qui nous revient, Thierry Schneider. Bonjour Thierry.
Bonjour Viviane.
Tu as écrit une dizaine de livres.
Oui.
Et aujourd'hui, évidemment, nous allons parler de ton dernier bébé qui s'appelle « Athlète de la vie », qui est préfacé de Mike Horn et qui est édité aux éditions Un Monde Différent. Mais avant d'attaquer cet athlète de la vie, on va rappeler à nos auditeurs qui n'étaient pas forcément là lorsque tu es venu la première fois, qui tu es. Alors tu vas nous raconter, quel petit enfant étais-tu ?
En fait, j'étais un petit prince qui voulait apprivoiser ses rêves, apprivoiser sa vie. J'ai toujours eu des grands rêves depuis tout petit, dont l'un des premiers était d'être footballeur professionnel. Il y avait un petit détail insignifiant pour moi, mais qu'il était dans le contexte, c'est que j'étais pas très grand en taille, sur le plan physique, et qu'à la fois...
Ça a changé,
j'ai grandi, et j'étais pas très doué. Mais il y a toujours eu cette envie, et en fait, c'était la grande première étape de ma vie, c'est que plus on me répétait que c'était pas possible, plus ça me donnait de l'énergie à persévérer, à aller plus loin. Donc cette étape-là, c'est pour ça que je dis le petit prince, ça m'a permis d'apprivoiser mon mental, de croire en moi, d'apprivoiser mes émotions, de croire à mon enthousiasme, même s'il était vraiment un peu perché, on va le dire comme ça, et de croire également à l'utilisation de l'imaginaire pour réaliser ses rêves. Donc ça a été toute cette première période qui m'a amené à être gardien de but dans le football, à tenter d'arrêter des buts, avec déjà le paradoxe, puisque je jouais dans un sport collectif, mais je mettais un maillot d'une autre couleur que mes équipiers. Ils jouaient avec les pieds, je jouais avec les mains. Et en fait, ça me correspondait bien. C'était une très très bonne école de la vie pour moi. J'avais un deal avec mes parents, c'était de suivre mes études.
Que faisaient tes parents ?
Mes parents, alors mon père était pâtissier confiseur, donc c'était complètement une autre énergie et tout. Et puis après, il a tout changé, ils ont créé en Haute-Savoie le premier supermarché en fait. Donc voilà, c'est un peu, il y avait un côté entrepreneurial qui était présent. Et puis voilà, c'était la première partie de cette évolution qui m'a conduit ensuite, vu que j'ai fait des études dans le milieu du sport, à tout arrêter à l'âge de 25 ans, le football, quand les choses marchaient bien, parce que je m'ennuyais. Et là, je suis parti sur la prévention santé. Je suis parti aux États-Unis, en Californie, où ça m'a beaucoup ouvert l'esprit, puisqu'avant, on n'était que dans le milieu du foot. Et là, j'ai côtoyé d'autres athlètes de tous les sports aux États-Unis. Ce qui était bien, surtout en Californie, c'est qu'ils se mélangeaient. Donc, j'ai connu les arts martiaux, la danse classique, la danse moderne, la musculation, la natation, le yoga, tous ces courants. Et ça m'a permis vraiment là d'apprivoiser beaucoup plus loin, puisqu'avant j'étais une machine de haut niveau. Et ce que j'ai découvert au contact de ces gens, c'est que mes émotions, eh bien, je les frustrais. On m'apprenait à être le premier, à être le plus fort, à battre les autres. Et en fait, j'ai compris via les arts martiaux que ça marchait pas dans ce sens, que les autres, plus ils étaient forts, plus ils me permettaient de sortir mes ressources. Et c'est comme ça que ça a commencé à être plus une danse avec les autres, avec l'environnement, plutôt qu'un combat. J'aurais aimé savoir ça quand j'avais été footballeur, parce que ça m'aurait permis peut-être d'aller beaucoup plus loin. Et ce que j'aimais pas, c'était toujours cette compétition, il fallait être plus fort que l'autre. Et là, j'ai appris en fait que non, il fallait simplement que je sois une version plus large de moi-même.
Jouer collectif en fait.
C'est ça, jouer collectif et que les autres étaient des partenaires en fait, des partenaires qui me permettaient de sortir mes ressources et pas des adversaires. Et c'est ce qui m'a amené à être dans cette prévention santé, à revenir en Suisse pendant des années pour lancer ce mouvement-là. Et puis on m'a demandé un peu plus tard de venir parler du stress en entreprise, dans le milieu de l'entreprise où il y avait beaucoup de stress, de burn-out. Et c'est comme ça qu'il y a plus de...
Quel était le lien alors avec le sport, la prévention, santé,
la performance en fait.
La performance.
C'était la performance et on venait me chercher non pas, puisqu'il y avait un peu ce critère performance égale bonheur. Et personnellement, je travaillais dans l'autre sens. C'était de me dire, quel que soit l'objectif qu'on atteint, que les gens veuillent atteindre, c'est qu'ils sont heureux après l'avoir atteint. Donc je me suis dit, vu que l'objectif est toujours le même, c'est se sentir bien, être heureux, apprenons à être bien avant la compétition, apprenons à avoir beaucoup d'énergie avant de partir sur un projet qui peut être de business, qui peut être scolaire, qui peut être amoureux, sur n'importe quel projet sportif. Et puis ensuite, eh bien, la conséquence c'est que le succès va suivre.
Thierry, est-ce qu'on est vraiment heureux quand on a atteint son but?
Alors, je pense, c'est pas qu'on est heureux.
Est-ce qu'on n'est pas, au contraire, comme quelqu'un qui a accouché puis qui a une dépression?
Mais totalement, Viviane. Parce que, justement, quand j'accompagne un athlète à être champion du monde, ce qui va, par exemple, exprimer, ou un homme d'affaires à avoir la promotion qu'il veut, ou le marché qu'il veut, c'est que du moment où il atteigne, et quand il l'atteigne, c'est déjà rare, parce qu'il y a beaucoup, malheureusement, de compétitions, c'est qu'ils sont stressés de devoir prouver qu'ils sont maintenant à ce niveau-là. Donc, comme tu le dis, c'est pas parce qu'on a atteint un objectif qu'on va être en paix. Au contraire, ça va nous donner encore plus de responsabilité. C'est comme si tout d'un coup on est en quête d'argent sur le plan de l'abondance financière, on va remarquer que quand on en acquiert, eh bien on a un stress de responsabilité de comment on va s'en servir.
Mais regarde les gens qui ont gagné au loto.
Totalement, totalement. C'est un très bon exemple aussi. Donc oui, l'important ça va être de cultiver avant la compétition, avant nos défis, ce bien-être en soi qui fait qu'ensuite on va rentrer dans le jeu social, j'appelle ça le jeu social, si on a bien rempli nos besoins vitaux, on va rentrer dans le jeu social pour exprimer une version plus grande de nous-mêmes, pour aider, avec une question essentielle, c'est comment puis-je aider? Et si j'ai pas cette énergie vitale au départ, je vais rentrer dans le jeu social pour obtenir de la reconnaissance, pour obtenir quelque chose, et c'est la mauvaise question, c'est la question qu'est-ce que ça va me rapporter? Et malheureusement, c'est cette question qui est totalement présente dans notre société et qui entraîne autant de conflits, parce qu'on est là pour aider, tout simplement.
Alors, on va écouter un peu de musique. Qu'est-ce que tu nous as choisi?
Stand by me de Benny King.
Radio Cité Genève. Viviane De Witt.
La bouteille à moitié pleine.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me, stand by me.
Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine, avec Thierry Schneider. Thierry Schneider qui a écrit récemment un 10e livre, Athlète de la vie, on va en parler tout à l'heure. Je veux d'abord expliquer à nos auditeurs que tu es coach, conférencier des leaders que tu accompagnes sur le plan international, des hommes ou des femmes d'affaires, des athlètes, des entraîneurs, des artistes, vers l'atteinte de leur niveau d'excellence. C'est pas rien tout ça.
Sacré défi.
Sacré défi.
En fait, par rapport à ceci, moi je suis un passionné de l'époque de la Renaissance, on en avait déjà parlé lors de l'interview sur mon précédent roman « Rêver d'un autre monde ». J'adore Leonardo da Vinci, j'adore Michel-Ange. Et il y a une chose qui m'a marqué dans cette époque qu'avait exprimé Michel-Ange, c'est qu'on lui exprimait comment il créait des chefs-d'œuvre. Et en fait, il disait, ben c'est simple, regardez, là il y a un bloc de granit, vous voyez un bloc de granit, moi je vois déjà le chef-d'œuvre. Donc il me suffit d'enlever tout ce qui est inutile. Et quand tu dis que j'accompagne des gens d'affaires, des athlètes, des sportifs, toutes ces personnes, en fait mon objectif, souvent dans tout cet accompagnement, dans le coaching, on veut rajouter des méthodes, on veut rajouter des choses. Eh bien, le but pour moi, c'est de faire à la Michel-Ange, c'est d'enlever en fait tout ce qui n'est pas à la personne, tout ce qui est inutile à son rayonnement. Ça va être ça, l'accompagner, afin qu'il reste juste elle-même et tout son potentiel XXL d'expression par rapport à la richesse de son vécu, à la richesse de son enthousiasme, à la richesse de sa créativité. Et c'est, pour moi, c'est vraiment cette danse dotée de délaguer, d'épurer et en même temps d'utiliser la puissance de l'imaginaire. Parce que comme nous l'exprimait Albert Einstein, l'imaginaire est le plus grand pouvoir que dispose l'être humain. Malheureusement, il disait, l'être humain, une grande majorité, utilise l'imaginaire pour se faire du souci. Donc mon objectif quand j'accompagne,
négatif.
C'est une sacrée réalité. Donc mon objectif déjà que j'ai travaillé beaucoup sur moi et que je continue de travailler sur moi parce que c'est pas acquis, c'est d'utiliser mon imaginaire justement pour me faire du souci en positif, pour imaginer des scénarios justement à la Spielberg qui vont fonctionner et non pas qui ne vont pas dysfonctionner.
Comment, parce que ça c'est vraiment quelque chose en lisant ton livre, donc dont je répète Athlète de la vie. Comment, si tu veux, fais-tu la distinction entre un rêve irréalisable, un fantasme, quelque chose qui est exagéré par rapport aux capacités et aux possibilités d'un être, et puis cette sorte de projection positive à laquelle il va pouvoir coller?
Alors, à la fois, comme je l'exprimais, Pablo Picasso disait « du moment où tu peux l'imaginer, c'est déjà une réalité ». Donc je vais partir dans cette... quand j'ai voulu être footballeur professionnel ou quand j'ai voulu écrire un livre, c'était un fantasme complètement plus qu'exagéré et totalement irréaliste que l'environnement m'a souvent répété. À un moment donné, je pense que cette interprétation, il est important d'oser croire à ce moment-là, d'écouter vraiment son cœur qui nous chuchote. Tu sais pas comment tu vas le réaliser, mais si tu es vraiment toi-même, si tu cultives ton authenticité, si tu prends des risques de prendre d'autres chemins que tu as pris jusqu'à ce jour, il y a des chances qu'il se passe quelque chose. Ça ne veut pas dire que je vais réussir tout de suite, mais ça va me faire atterrir à d'autres endroits. Et là, la magie de la vie pour moi m'est apparue, c'est que quand j'ai atterri à d'autres endroits, au-delà de voir que ma réalité avait déjà changé, je me suis rendu compte qu'à d'autres endroits, la vie, du moment où j'avais le courage, l'audace, que j'osais aller plus loin, elle m'offrait une belle rencontre. Elle m'offrait de l'aide, en fait, par une personne, par une autre personne, par un groupe de personnes, des choses complètement irréalistes.
Pas forcément le but dont on rêvait.
Totalement. Parce totalement.
Quelque chose de parallèle ou de
complémentaire. Une possibilité qui fait que quand j'accompagne quelqu'un et que je l'entraîne à imaginer, à visualiser, je l'exprime toujours qu'il faut jamais qu'il termine sa visualisation sur son objectif. Toujours avec un petit peu la phrase « ou mieux encore ». Parce que on croit que c'est notre chemin à un moment donné. Moi, je croyais que c'était le football, entraîneur, gardien de but. Et je me suis rendu compte que la vie m'a fait passer par ces chemins comme un apprentissage qui m'a emmené maintenant à écrire, à enseigner, à faire des conférences, à motiver, à inspirer, à faire ce spectacle aussi, qui jamais j'aurais imaginé cela. Jamais j'aurais imaginé, par exemple, vivre ce spectacle en 2002 avec Bill Clinton à la salle de Montréal devant 20 000 personnes. C'était complètement un rêve d'enfant.
Rappelle-nous cet épisode de ta vie.
Ben, je me retrouve invité par un promoteur au Canada à un événement qui réunissait 20 000 personnes du monde des affaires et du sport. Et il avait invité comme invité principal Monsieur Bill Clinton, qui était président des États-Unis. Il y avait David Douillet, qui était multiple champion de Jeux Olympiques, de judo et toutes ces disciplines. Il y avait Tom Hopkins, qui était le gourou de tout ce qui est vente. Il y avait Robin Sharma, qui est un ponte au niveau du leadership. Et moi, je me retrouve là. J'ai rien à faire là, en fait. Si ce n'est que cette personne a perçu un enthousiasme et m'a lancé un défi. Il m'a dit, j'aimerais que tu fasses un spectacle de athlète de la vie.
Et tu as fait ce spectacle.
Et j'ai fait le spectacle Athlète de la vie.
Alors, qu'est-ce qu'on écoute maintenant?
Alors, on va écouter Youssouf N'Dour avec 7 Seconds.
Radio Cité Genève, Viviane De Witt.
La bouteille à moitié pleine.
Bulma sen, bulma gisma dile, gafok niyo, khamuma, linette gisama su, aksigina, beguma. Ma xol dal dine yow li nek si yow mo ne si man li ne si mo moy di len jappal. Les raisons qui nous poussent de changer tout. J'aimerais qu'on oublie le couleur pour qu'ils espèrent. Beaucoup de sentiments, de race qu'il faut, qu'ils désespèrent. Je veux les gamins ouverts, les amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le vivent. Des infos qui ne divisent pas. Changer. 7 seconds away, just as long as I stay. Just as long as I stay, I'll be waiting, I'll be waiting, I'll be waiting.
And when a child is born into this world,
vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine. avec, vous le savez maintenant, Thierry Schneider, qui est un coach, conférencier de leader à travers le monde entier, toutes spécialités confondues.
Oui, parce que l'important, en fait, que ce soit dans le domaine des affaires, on peut accompagner des collaborateurs ou des managers, ou on peut accompagner des êtres humains qui ont un rôle de manager ou de collaborateur. La même chose dans le sport, on peut accompagner un footballeur, un basketteur, un coureur à pied, un aventurier. Mais avant tout, ça va être un être humain qui a décidé d'incarner ce rôle. Donc mon travail, il est surtout justement de cultiver la version plus grande de l'être humain. Après, lui, il sait son art, il connaît, s'il est athlète, il sait courir vite ou marquer des buts, s'il est aventurier, il sait prendre ses risques de faire le tour du monde, comme Mike Horn ou Géraldine Fasnacht qui fait le wingsuit. Et donc, mon objectif est simplement, à ce moment-là, d'accompagner la personne à se reconnecter avec son énergie. Pour moi, l'énergie, c'est, je viens du sport, mais c'est un mot très important. Puisque si je suis un manager, j'ose exprimer qu'un manager, il a qu'une seule personne à diriger lui-même. Un manager, une faute grave, c'est d'être négatif, c'est de manquer d'énergie. Un manager, il est là pour, comme un chef d'orchestre, pour encenser, pour enthousiasmer, pour coordonner les personnes. Donc comment l'être humain qui incarne le rôle de manager va travailler sur lui pour prendre de l'énergie. J'appelle ça les besoins vitaux. On a tous des besoins vitaux. C'est une affaire personnelle. Est-ce que je prends du temps pour cultiver mon niveau d'énergie? Si je le fais, je vais pouvoir rentrer dans ce fameux jeu social dont je parlais tout à l'heure avec de l'énergie et avec la bonne motivation qui sera d'aider, pas d'être reconnu, puisque je suis juste là pour jouer mon rôle d'inspirer les autres dans ma spécialité, quel que soit notre métier. Et derrière ça, il y a encore un point qui est très important qui va nous donner de l'énergie, ça va être comment je réussis mes relations avec l'autre, avec les autres. Pour ça, je dois réussir la relation avec moi-même, c'est pour ça qu'il est important de prendre soin de soi-même, il est important de s'aimer soi-même, parce que sinon je vais pas pouvoir être...
Il y a beaucoup de gens qui se détestent.
Je pense que...
J'ai toujours l'impression, au contraire, que les gens s'auto-encensent et se survalorisent.
Alors je pense que quand on se survalorise et comme tu le dis, qu'on s'auto-encense, c'est de l'ego. C'est égocentré.
Ça veut dire beaucoup de gens qui sont remplis d'ego aujourd'hui. On en a une très bonne expérience là avec les élections en France.
Oui, c'est vrai que je rentrerai pas sur le sujet.
C'est un balai d'ego.
Mais on a un balai d'ego et ça me fait songer à justement, c'était un sketch de Roland Magdan qui parlait le roi des fous. Les rois des fous, c'est un vieux sketch mais qui est totalement dans l'actualité. Si on n'a pas d'énergie, on va devoir aller dans le pouvoir. L'énergie, c'est un sentiment de puissance intérieure qui nous permet d'aider. Si je l'ai pas, j'ai peur. Je vais pas être dans la confiance, donc je vais être dans la peur. Et si je suis dans la peur, je vais être dans le contrôle. J'ai besoin de contrôler les autres, voire d'assouvir les autres, voire de manipuler les autres. Et pour moi, ça, c'est pas du management. Un manager, il est là pour justement cultiver. C'est un jardinier.
Grandir les autres. Oui.
C'est un jardinier de potentiel. C'est un jardinier.
C'est joli ton mot. Oui. Un jardinier de potentiel, c'est un mot magnifique ça.
À laisser juste fleurir et tout ça
un
avec
jardinier la. Jardinier de potentiel, je l'écris parce que je trouve que c'est un très beau mot.
Mais c'est une expression spontanée qui vient de naître. Jardinier, le potentiel de chacun, c'est la plus belle des missions qui nous soit offerte. Tout ça en dansant avec la vie, c'est comme un surfeur. Il va danser avec l'océan. Il faut pas oublier l'océan. Il faut pas oublier la vie. C'est un partenaire. Je trouve ça très prétentieux de vouloir contrôler l'univers, contrôler la vie. Non, on fait partie de tout ça, on peut danser avec, comme le surfeur. Il y a des vagues qui vont le porter sur celle qui va être magique, qui va le faire surfer. Mais il y en a plein d'autres qui vont le faire couler. Donc le but, c'est d'avoir cette virtuosité de surfer sur les bonnes vagues de la vie. À des moments, c'est pas la bonne vague à prendre. Il faut avoir l'humilité à ce moment-là, comme un jardinier avec la nature. Ça va pas pousser à ce moment-là. Donc, faut cultiver en profondeur dans la terre, même si ça se voit pas encore. Mais c'est vrai, comme tu le disais, on est dans un monde où l'apparence règne de partout. Et souvent, eh bien, on va montrer de la façade. Le but, ça va simplement être de cultiver des racines. Je reste sur cette terminologie-là. Et si je cultive les racines automatiquement, les fleurs, eh bien, elles vont fleurir et les plus belles fleurs. Même, on le voit là dehors, il y a des plantes qui vont pousser à travers le rocher. Quelle que soit l'adversité, les obstacles, on va pouvoir croître. La barrière de corail n'a jamais été aussi lumineuse qu'à l'endroit où elle doit confronter chaque jour l'océan. Et elle est très terne à l'endroit où elle est un peu endormie, où il se passe peu de choses. Donc oui, en tant qu'être humain, on est là pour oser prendre d'autres chemins. On est là pour simplement se donner un sens à notre vie sans vouloir sauver le monde, parce que là, on rentrerait dans la fameuse triangulation du sauveur. Donc, il y a une pauvre victime et il y a un mauvais bourreau. Donc, et là, j'en reviens à Einstein. Il disait toujours, inventer, c'est prendre la porte d'à côté. Et on lui disait, c'est quoi la porte d'à côté? Il disait, pourtant, je suis un scientifique. La porte d'à côté, c'est d'aller dans le cœur. Parce que quand je suis dans le cœur, on sait naturellement être humain. Il n'y a pas besoin d'avoir de leçons. Aimer, c'est quelque chose qui est naturellement implémenté dans notre ADN. Ce qui n'est pas naturel, ce qui n'est pas humain, c'est d'être égocentré, de vouloir battre ou être meilleur que l'autre. Parce que c'est stupide, puisqu'on est tous différents. Je peux être qu'une version peut-être un peu plus lumineuse que la version de Thierry de l'interview qu'on a fait il y a un an. Mais me comparer à d'autres personnes qui sont venues là, ou à d'autres écrivains, ou à Mike Horn, ou à mon ami Laurent Gounel, l'écrivain, ça sert à rien, puisqu'on est différent. Par contre, oser être pleinement moi-même, oser cultiver vraiment cette saine folie d'aller au-delà de mes limites, ça peut donner justement du piment au quotidien.
Et bien maintenant, qu'est-ce qu'on écoute ?
Fade Out Lines, The Avener.
Radio Cité Genève, Viviane De Witte.
La bouteille à moitié pleine.
The clock is ticking, it lasts a couple of clocks, and there won't be a party.
Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine, avec Thierry Schneider, dont vous savez maintenant qu'il est coach conférencier de leader, c'est-à-dire qu'il accompagne sur le plan international des hommes ou des femmes d'affaires, des athlètes, des entraîneurs, des artistes, vers l'atteinte de leur niveau d'excellence. Tu as écrit beaucoup de livres, parce que je crois que Athlète de la vie, qui nous anime aujourd'hui, qui nous a réunis aujourd'hui, c'est ton 10e livre. Le premier s'appelait comment ?
Vivre grand. Vivre grand, le premier. Il y a eu une trilogie qui était Vivre grand, Cœur à cœur et Joy, tout est possible. Voilà. Ça, c'est vraiment la trilogie. Et nous nous sommes rencontrés sur le livre Oui, rien n'arrive par hasard.
Rien n'arrive par hasard. Et j'ai bien vu que tu avais raison. Ça m'a beaucoup interpellée. Ça m'a fait changer un certain nombre de curseurs. Donc, tu vois, c'est important.
Et alors, j'ai une petite anecdote sur « Rien n'arrive par hasard » parce que c'est vrai que c'est pour moi un ancrage. Je parlais juste avant de danser avec la vie, de danser avec l'univers et tout ce jeu des synchronicités du « Oui, rien n'arrive par hasard ». Et je me rappelle justement au Salon du Livre de Genève, il y a de nombreuses années, où je présentais « Rien n'arrive par hasard ». J'étais juste en dédicace à côté de Douglas Kennedy. Et que j'avais une grande admiration pour Douglas Kennedy. Et à un moment donné, il y a eu une pause et on a pris un café tranquillement ensemble. Et il m'a dit, mais tu vois, là, tu as parlé de hasard dans ce livre. Ma prochaine trilogie, je vais écrire sur le hasard. Oui. Et il me disait, le oui, rien n'arrive par hasard, c'était un déclic pour lui d'aller dans tout ça. Et je pense qu'on a tous cette relation au hasard. Donc, oui, rien n'arrive par hasard est vraiment un des livres qui a été un des livres qui est fort de mon chemin. Et puis après, il y a eu Envole-toi vers ta bonne étoile, un roman. Et puis le dernier, c'était Rêver d'un autre monde, qui est un roman sur plusieurs époques, qui se passe dans le milieu, qui se passe au Machu Picchu pour une partie. Donc c'est vraiment c'est un roman de l'été et à la fois il y a toute une partie très entrepreneuriale puisque c'est l'histoire de cette femme qui crée une multinationale il y a plus de 160 ans avec rien au début. Donc qui résume complètement notre sujet. Et à la fin de Rêver d'un autre monde, il y a aussi un travail pratique de 21 jours. Qu'à tête de la vie, on est vraiment dans un travail pratique. Il y a 7 semaines d'entraînement avec 7 thématiques qui nous permettent justement de nous réaligner dans notre version la plus large, avec un travail qui peut être autant sur le corps physique, via la respiration, on en avait parlé récemment ensemble en vie privée. Il y a toute une partie qui est sur la gestion des émotions, comment on cultive des émotions agréables, et qu'on se sert des émotions désagréables pour se guider. J'insiste en disant désagréables, ce n'est pas des émotions négatives, c'est notre boussole intérieure qui nous permet, qui nous montre quand on est dans l'émotion désagréable qu'on est en train de s'éloigner de notre intégrité personnelle. C'est qu'on respecte soit pas notre santé, nos besoins vitaux, soit on se respecte pas dans les relations aux autres, soit on se respecte pas au niveau de nos valeurs. Donc nos émotions désagréables nous font des signaux amicaux qui nous disent attention Thierry, t'es en train de t'éloigner.
Thierry, il peut y avoir, par exemple, quand tu dis agir ou subir, quelquefois on subit des choses auxquelles on ne peut rien. Il peut arriver des malheurs qui sont
totalement.
Que l'on subit.
Totalement.
Et alors, comment est-ce qu'on s'en sort, là ?
Ben, je pense qu'il y a 3 étapes. Déjà, un, c'est de remarquer que dans cette étape-là, comme tu l'exprimes, rien ne sert de combattre contre l'environnement. À un moment donné, je vais tomber. Lorsque je tombe, tomber 7, se relever 8. Le moment où je tombe, je ne dois pas chercher la raison que je tombe. Là, je dois accepter qu'ici, maintenant, je vis des émotions désagréables et que je suis à terre. Derrière ça, je dois identifier progressivement comment je peux me redresser. Et là, c'est tout un travail physique. Ça ne va pas être un travail psychologique. Ça va être un travail sur le corps pour remettre mon corps dans la bonne énergie vitale qui va m'amener ensuite à pouvoir utiliser la visualisation, la fameuse méthode Coué. Si quand je suis à terre, je me dis tout va bien, ça ne va pas marcher parce que mon énergie est complètement minée, vicieuse. Et à ce moment-là, je dois simplement faire le nettoyage à l'intérieur de moi-même par ce travail corporel. Malheureusement, qui est très bien enseigné dans le milieu du sport ou de la musique, et dans le milieu de l'entreprise, malheureusement, on oublie souvent le corps. On a justement des langages qui sont que mentales, cérébrales, avec des présentations qu'avec du PowerPoint, et on oublie ce côté émotionnel. Donc en résumé, quand je suis à terre, ça va faire partie de mon chemin, je vais me redresser, je vais comprendre pourquoi je suis à terre et souvent justement c'est parce que je me suis pas respecté, j'ai voulu faire plaisir, j'ai pas voulu blesser l'autre, donc j'ai exprimé...
Ou j'ai péché par orgueil
parce que j'ai voulu aller trop vite.
Une mauvaise analyse de mes capacités.
Je me suis surévalué par rapport à un projet. Ou derrière, souvent, malheureusement, j'ai pu aussi me mentir par rapport à quelque chose qui me semblait important et la vie me rappelle que l'important n'est pas là pour moi dans cette époque-là ou dans ce moment-là. Donc vraiment, il y a tout, je pense, un gros travail d'humilité dans tout ça. Et c'est pour ça que j'en reviens, c'est une danse. Parce que si on danse, si on travaille, on va dire, le pain dans le bon ordre, il va vraiment lever. Si on rate des étapes, eh bien, on va avoir des ennuis, des choses qui vont mal se passer sur le chemin. Et je crois que la nature nous inspire, il y a des saisons. On a un travail saisonnier avec un projet. Et il est important de respecter les rythmes de croissance de ce projet. Ça veut pas dire que des fois, il faut pas accélérer. Mais des fois, je pense, dans notre société, on oublie de ralentir. Ralentir, c'est un art. Ralentir, c'est enlever de nouveau l'inutile. Ralentir, c'est épurer mes paroles. C'est épurer mon écoute. Vraiment avoir une écoute de l'autre, de l'environnement. C'est épurer mon écoute aussi de mon ressenti. C'est pas tout réfléchir, c'est aussi beaucoup ressentir.
Laisser remonter les émotions, alors.
Laisser remonter les émotions, parce que les émotions, elles sont là, qu'on le veuille ou non. Et en fait, un corps détendu, ça veut dire que les émotions, elles sont agréables, l'enthousiasme, l'amour, la paix. Et ça veut dire que si mon corps est dans un état de détente, que mes émotions sont agréables, c'est que mon mental, il est calme, il est paisible, il peut être créatif. L'opposé, le stress, c'est simplement que mon mental, il est surchargé de soucis. Je suis bombardé de soucis. Je suis plus connecté à moi-même. Mes émotions, elles hurlent en désagréable pour essayer de me dire attention, attention, attention. Et mon corps, eh bien, malheureusement, il est chargé d'impulsions nerveuses. Et il en subit les conséquences.
Bon, on va essayer d'écouter quelque chose de plus gai et de plus entraînant. Qu'est-ce que tu nous proposes?
Alors, Ain't No Sunshine de Bill Withers.
Radio Cité Genève. Viviane DeVitte.
La bouteille à moitié pleine.
Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. I wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. And I know, hey, I oughta leave the young thing alone, but ain't no sunshine when she's gone. Ain't
Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away. She goes away.
Vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2 FM dans la bouteille à moitié pleine avec Thierry Schneider. Thierry Schneider qui a écrit un 10e livre, Athlète de la vie, paru aux éditions Un Monde Différent. Et qui, ce livre, Athlète de la vie, a été préfacé par Mike Horn, qui dit « Si tu rêves de quelque chose, tu peux le faire. Les obstacles ont seulement l'importance qu'on leur prête. » Ça, c'est un sacré conseil.
Oui, c'est un sacré conseil. Donc, Mike Horn, c'était une très belle rencontre sur mon chemin de vie et il incarne totalement les principes de l'athlète de la vie. Et c'est vraiment cette notion de croire que l'important, il se trouve vraiment à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est à nous de l'extraire. C'est à nous
rappelle
de l'extraire.
Pour nos auditeurs qui ne le sauraient pas, bien que Mike Horn soit universellement connu, rappelle ce qu'il a fait quand même.
Alors Mike Horn, c'était un aventurier, et c'est un aventurier qui a osé, il a fait le tour du monde au niveau de la latitude zéro. C'était un de ses premiers exploits. Il a fait le tour du cercle polaire, et toujours d'une manière totalement naturelle, qu'avec son mental, on va dire, son mental et sa condition physique. Donc il l'incarne. Et lorsque j'avais fait ce spectacle à Montréal avec Bill Clinton, on avait fait durant le spectacle, pour montrer que tout est possible, on avait fait un interview avec lui qui était au pôle Nord à ce moment-là. Donc c'est vraiment un athlète de la vie, c'est un aventurier qui a optimisé optimalement son mental en justement croyant à ses rêves et qui en a sorti des leçons de vie pour monsieur et madame tout le monde au niveau du quotidien. Et de vraiment aller dans cette dynamique d'apprivoiser, parce qu'il faut croire à ses rêves. Les obstacles ont seulement l'importance qu'on leur prête. C'est donc un obstacle. Qu'est-ce que je vais en faire? Est-ce qu'il va me limiter ou est-ce qu'au contraire il va me galvaniser de possible? Et c'est pas parce que personne a encore fait quelque chose que ce n'est pas possible de le réaliser.
Il t'a beaucoup inspiré, Mike Horn.
Oui, il m'a beaucoup inspiré. Il m'a beaucoup inspiré parce que déjà, c'est quelqu'un d'authentique, c'est quelqu'un de vrai, c'est quelqu'un...
Il a quel âge aujourd'hui?
Alors, c'est une très bonne question. Il doit avoir 57, je pense, à quelques années
près. Je l'imaginais plus vieux parce qu'il est depuis si longtemps sur la scène du monde.
C'est ça. Mais il s'est vraiment engagé pour la nature, pour vraiment la défense de la nature et d'une autre cause qui m'est chère, ce sont les jeunes. Puisqu'il emmène les jeunes à la découverte et d'apprivoiser justement cet univers dans lequel, cette planète bleue dans laquelle on vit au niveau du quotidien. Et je crois que c'est vraiment important parce que ce qui ressort, c'est que quand j'accompagne quelqu'un, les obstacles ont seulement l'importance qu'on leur prête, ça va être ça. C'est qu'au départ, les gens vont me dire « ce n'est pas possible ». Et je dois arriver à les convaincre que oui, c'est possible de gravir la montagne, on va garder cet exemple-là. Derrière, ils vont me dire « Ok Thierry, oui c'est possible, mais pas moi, pas nous, lui, eux. » Et là, je dois justement mettre en avant tous les talents, les qualités, les potentiels, la caverne d'Ali Baba de leur vécu, qui montre qu'ils ont les capacités, eux, de rendre possible ce défi.
Alors dans ton livre « Athlète de la vie », justement, tu parles du pouvoir de la confiance, de la croyance, le pouvoir du libre choix, du moment présent... Et ce qui m'a beaucoup intéressé, de la visualisation. Donc, se projeter comme si on avait déjà réussi. Est-ce que c'est ça?
Oui, c'est exactement ça. C'est se projeter comme si on avait réussi. C'est d'arriver à élaguer tout ce qui n'est pas moi, qui est de l'échec, en fait, et qui ne sert à rien, si ce n'est de transporter des poubelles du passé dans mes projets futurs. Mais c'est un travail énorme. Et c'est pour ça que la croyance est un point important. C'est comment transformer ces croyances freins, ces poids, en croyances énergisantes, en carburant. La confiance, ça va être vital. Les aborigènes l'expriment comme ça, soit j'ai confiance, soit j'ai peur. Donc pour atteindre des projets, il faut cultiver la confiance. Je dirais, quel que soit notre métier, quel que soit notre rôle, quel que soit le rôle de manager, d'entraîneur, de professeur, notre but est de jardiner de nouveau de la confiance, de cultiver la confiance en soi, en l'autre et en la vie aussi. C'est-à-dire que tout ça, ça doit être un partenariat. Si j'arrive à unir ce partenariat, eh bien automatiquement, je vais créer ce haut niveau d'énergie, cette haute motivation. Et derrière, il y a les intelligences. Les intelligences, pareil, sont illimitées. Je ne parle pas que l'intelligence intellectuelle. Il y a l'intelligence émotionnelle, spatio-temporelle. Il y a l'intelligence, du moins, d'arriver à visualiser, comme tu le dis. Et on est tous pros. Dernièrement, à la fin d'un spectacle, j'ai une dame, femme d'affaires, qui me dit « Mais Thierry, je n'arrive pas à visualiser. » Je lui ai juste posé la question, est-ce que des fois vous vous faites du souci ? Elle me dit oui, tout le temps. Je lui dis, bien, il faut changer.
Ça, c'est le propre d'un chef d'entreprise, hein, je te le confirme.
Il faut changer les ingrédients. Et c'est ça le gros du travail. C'est comment on utilise comme une cuisine des ingrédients positifs. Et c'est un énorme travail. Et moi, je me rends compte que j'accompagne parce que ce travail, je le fais sur moi. Je n'ai pas été l'élève le plus facile. Je n'ai pas été celui qui a eu le moins de croyances freins. Au contraire. Et on m'a bien mis les croyances freins, comme je le disais au début de l'interview, j'étais trop petit, j'étais pas assez ci, j'étais pas assez là. Mais finalement, ça a cultivé un peu une ADN que bah, tout est possible. Parce que quand vous l'avez vu, on l'a tous vu dans nos vies, quand on réalise quelque chose, il y a plein de gens autour qui nous disent « Ah, mais j'ai toujours cru en toi, Thierry. »
Mais après coup.
Après coup. Ouais. Quand on est dans la tourmente, on se souvient aller sur les 10 doigts de la main, même sur les 5 doigts de la main, qui a cru en nous. Donc, ça va être un travail qui est très personnel.
Et tu dis aussi, et cet athlète de la vie qui rit, son humour est sa source de jouvence.
Oui.
Ça, j'ai bien aimé aussi.
Oui, parce que le rire, c'est important. Le rire, c'est un état de joie, d'émotion très agréable. On ne va pas pouvoir empêcher les oiseaux de mauvais augure de tourner au-dessus de notre tête. Mais notre métier, notre travail principal, c'est d'empêcher les oiseaux de mauvais augure de faire le nid sur notre tête. Et l'un des meilleurs moyens d'éviter de faire leur nid de la négativité sur notre tête, c'est d'aller dans l'humour, c'est d'aller dans le rire, c'est d'aller dans cette dérision des choses au niveau du quotidien, c'est de passer plus de temps avec les enfants, même si les enfants ici maintenant, il y a un point qui est fabuleux, c'est qu'ils sont beaucoup plus conscients, ils ont beaucoup plus d'ouverture, mais il y a un point qui est un peu plus désagréable, c'est qu'ils perdent un peu cet élan un peu vital de croire à des choses, de danser avec, je sais pas, je vois passer là des vols de papillons. L'essentiel, ça va être ça, c'est aussi le moment présent, c'est comment je me replonge dans l'instant, comment je me nourris de choses totalement belles. La beauté, de nouveau, j'en reviens à la Renaissance. Créer le beau, athlète de la vie, aux éditions Un Monde Différent.
Mon cher Thierry, on arrive malheureusement au terme de cette émission. Mais je dois dire que je recommande à tous nos auditeurs d'acheter ce livre qui est un condensé de joie, d'élévation, je ne sais pas comment exprimer ça. Moi, je l'ai lu avec... Ça m'a reboosté, voilà. Et je pense que tout le monde a besoin d'être reboosté. Ça s'appelle donc « Athlète de la vie », c'est préfacé de Mike Horn. C'est aux éditions « Un monde différent ». Et je vais terminer, mon cher Thierry... Tu as dit « Pourquoi dire « je ne peux pas » lorsque je peux dire « je peux » ? Alors, on va terminer là-dessus, si tu veux bien.
Magnifique, Viviane. Merci et merci de m'avoir accueilli ce matin.
Merci à toi et merci à Olivier Steinmetz qui nous a enregistrés ce matin. Et à Véronique Marron qui nous a
également
fait rencontrer.
Exact.
Au revoir.
Au revoir.